Bouillon de lecture, coucou, nous revoilà, c'est la rentrée. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour. Et ce, tranquillement installé chez vous.
Avec une bière.
Avec une bière.
De préférence.
En écoutant Hervé vous lire quelques extraits. Parfois c'est Catherine, mais Catherine n'est pas là aujourd'hui, on lui dit bonjour quand même.
Bonjour Catherine.
Bonjour Catherine.
Ah, tu remarqueras, elle est souvent en vacances, Catherine, d'ailleurs.
On va en profiter pour dire du mal. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Eh bien Hervé, que vas-tu nous lire aujourd'hui ?
Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne le referai pas, Dominique, je te le promets, je vous le promets. Je vais vous lire un polar. Ou plutôt, je vais vous lire plusieurs polars, mais d'un seul auteur.
Ça dit, ce n'est pas interdit, on ne sait jamais interdit les polars.
Moi, je m'interdis en général les polars en public parce que l'intrigue est toujours la même. Tu vas pas être d'accord avec moi, mais j'adore quand tu n'es pas d'accord avec moi. L'intrigue est toujours la même. Au début, voire en avant-propos, il y a un crime. Puis le héros qui est commissaire, inspecteur et tout, détective privé arrive. Et en rencontrant du monde avec ses acolytes ou ses alcooliques, Ça fait plus mieux de dire alcoolique. Eh bien, il résout l'énigme, il résout le crime, et à la fin, pof, ça y est, tout le monde est beau.
En sachant qu'ils ne sont pas tous spécifiquement battus comme ça. Mais bon.
Bah, la plupart du temps, ça repose comme ça là-dessus. C'est pourquoi je ne préfère pas en lire en public. Mais par contre, les polars ont souvent une grande qualité, c'est qu'ils créent des atmosphères qui peuvent être différentes.
Extrêmement différentes.
Par exemple, il y a des polars qui reposent sur l'humour.
Oui, tu penses à...
Oh, je pense à Harlan Coben, par exemple. Alors bon, certes, c'est un humour très américanisé. J'apprécie pas trop.
J'en ai pas lu beaucoup, mais...
Adler Olsen, il a un policier, je sais plus son grade, qui s'appelle Karl Mork. Ou alors, il peut y avoir des polars qui reposent sur l'atmosphère. Granger, Mankell... Tiens, quel est le nom du commissaire de Mankell ?
Wallander,
mais bien sûr.
Qui devient, on va pas divulgâcher, mais enfin, quand même, il est malade à la fin.
Oui.
À la fin de la série.
Oui,
tout
à fait.
Très malade.
Agatha Christie, c'est peut-être plus ancien.
C'est plus ancien.
Ça reposait là-dessus aussi. Alors Thierry Jonquet, et ses atmosphères toujours noires, morbides. Il peut y avoir des polars historiques. Caleb Carr, par exemple, et d'autres.
Balzac,
oui, tout à fait. Mais oui, bien sûr. Alors, il peut y avoir des intrigues. J'ai noté, parce que je prépare l'émission, j'ai noté intrigante. C'est peut-être pas forcément le terme. Je pense à Michel Bussy, qui propose énigmatique. Voilà, énigmatique.
Nafé
à noir, par exemple. C'est magnifique ce bouquin. Auditeur, on vous le dit, lisez Nafé à noir de Michel Bussy. Fabuleux.
La construction du livre qui est exceptionnelle.
Ou alors le vrai héros, le héros américain avec des colts, etc. Là, je pense à Harry Bosch, de Michael Connelly, par exemple. Ou l'anti-héros. L'anti-héros, c'est Fred Vargas avec...
Et le commissaire Adamsberg.
Eh bien, bien sûr. Bon, j'arrête là parce qu'on pourrait continuer. Et je vous propose de démarrer tout de suite avec Olivier Norek. Au fond du couloir, au 9e étage de l'immeuble, Sam se contentait de rester sur le palier, derrière le ruban jaune du périmètre de sécurité. « Tu sais que ruban, c'est pas pour toi, hein. Tu peux passer dessous, » lança Johanna. « C'est dégueu ?»« Non, c'est supportable, tu peux entrer. » Les policiers en tenue s'écartèrent et il passa la tête dans l'appartement. Coste était accroupi devant le cadavre d'une vieille dame, allongé sur le sol, les yeux encore grands ouverts, un rictus de douleur sur le visage. En fond sonore, les radios police crachaient à volume réduit l'activité du département. « Sam, trouve-moi un témoin parmi les voisins. Johanna, appelle l'identité judiciaire et jusque-là, on garde les mains dans les poches !» Ronan apparut à son tour dans l'encadrement de la porte. « J'ai vu le médecin des pompiers, mort naturelle, probablement crise cardiaque. Elle s'appelle Rose. » Rose Carpentier, née en 1945. Les morts naturelles, c'est pour le commissariat, non ? Oui, normalement, si c'était un petit détail, répondit Coste. Ronan observa mieux la scène. Oui, effectivement, c'est pas commun. Sur le corps de Rose Carpentier et tout autour d'elle étaient éparpillés par dizaines des billets de 20 euros froissés. Une somme que plus tard les flics évalueraient à 500 euros exactement. De son côté, Sam avait récupéré les informations demandées et il s'adressa à ses deux collègues en prenant soin de ne pas regarder au sol. Elle a été découverte en l'état par son voisin pakistanais. Vu le stress du témoin, je parie pour un sans-papier. On n'en tirera pas grand-chose. Il a appelé police secours vers 21h. Coste Tika, comme le reste de son équipe. Il l'a découverte en l'état? Tu veux dire que la porte d'entrée était ouverte et l'argent est toujours là? Ce détail venait mettre un grain de sable dans le rouage de leur déduction. Ils furent interrompus par un des policiers en tenue. « Mon collègue m'avertit qu'un magistrat vient de prendre l'ascenseur. Fleur Sainte-Croix, vous connaissez ?» Ronan souffla, déjà exaspéré. « Merde, la chieuse de ce matin, elle a pas d'amis ou quoi ?» Lorsque les portes automatiques s'ouvrirent, une jeune femme blonde, coupe au carré et sacoche en cuir sous le bras, fit une entrée remarquée. D'abord parce qu'elle était franchement jolie, mais aussi parce que ses petites ballerines, sa jupe un poil trop courte et sa chemise cintrée juraient avec le décor. Sam fit tout haut la remarque que personne n'osait formuler. « Elle fait pas un peu pute, la magistrate ?» En expert, Ronan précisa, « Je dirais plutôt super sexy, mais t'as raison, elle est vraiment pas sapée pour l'occasion. » Et comme elle s'approchait d'eux, sa phrase se termina en chuchotement. Elle les regarda les uns après les autres et s'adressa d'instinct à celui qui, pourtant, restait en retrait. Épaules larges, barbe de 3 jours et regard profond. Il n'était pas spécialement grand, pas spécialement costaud, mais sans qu'elle ne se l'explique, il paraissait évident qu'il dirigeait le groupe. « Capitaine Coste, Fleur Sainte-Croix, vous avez fait vite. Bonsoir madame, je vous renvoie le compliment. Une personne âgée découverte morte sur un matelas d'argent. J'ai trouvé ça assez intéressant pour me déplacer. Vos premières hypothèses ?» Coste se lança. « Ça ressemble à une crise cardiaque. Ce qui est surprenant, c'est que le voisin l'a découverte porte grande ouverte. Tout cet argent à disposition de n'importe qui, et pourtant, il est toujours là. Comme s'il était empoisonné. À croire qu'il était déconseillé d'ennuyer Rose Carpentier et que tout le monde le savait. » Ronan souleva le ruban en police et Sainte-Croix entra dans l'appartement. Son regard passa sans émotion particulière sur le cadavre, puis elle fit quelques pas de côté pour laisser travailler les policiers. Coste poursuivit le cheminement de sa pensée. « On est en train de se laisser déconcentrer. Oublions que c'est une retraitée, apparemment sans histoire. Quand on interpelle un type avec 500 euros en billets froissés dont aucun ne dépasse 20, quelle est votre première suggestion ?»« On pense à un petit dealer de rue. » répondit Ronan. « Mais je doute sérieusement que Rose, à son âge... » Il s'arrêta dans son raisonnement, car à son tour, il venait de comprendre. « Merde, c'est pas ses économies, c'est sa paye. Et le dealer, c'est son employeur. Rose est une nourrice. Et sans sa crise cardiaque, on n'aurait jamais mis le doigt dessus. Le coup de chance. Enfin, je veux dire, pour nous surtout, » ajouta Johanna. Sam, dont toute l'équipe connaissait l'inavouable travers, se permit toutefois de faire partager son expérience. Une nourrice? D'accord pour de la coke ou de l'héro, mais s'il y avait une grosse quantité de cannabis, je l'aurais. Enfin, ça sentirait un minimum quand même. Pas obligatoirement. Alors il ne nous reste qu'une solution. La canine. Amy arriva, passablement surexcitée. Elle tirait si fort sur sa laisse que sa respiration en devenait rauque. À l'autre bout, son maître tentait de la canaliser. « Vous allez me la faire crever. Dans le hall, déjà, elle n'en pouvait plus. Il est construit en shit, votre immeuble ?» Le berger belge malinois, spécialisé dans la recherche des produits stupéfiants, fit éruption dans l'appartement en jappant sa frustration, laisse tendue à rompre, dérapant sur le lino et collant sa truffe partout. Elle fouilla dans la cuisine, puis se mit à gratter franchement un endroit précis. Dans le double fond du meuble sous l'évier, Sam retira 6 pains de plastique remplis de poudre blanche. Amy fut félicitée par les caresses et relancée vers les autres pièces. Dans la chambre, un des côtés du matelas avait été ouvert au couteau, permettant d'y insérer la main. Sam en sortit une série de 8 pains de plaquettes marron et huileuses. Nouvelle félicitation. Dans la salle de bain, le cache en bois latéral de la baignoire, ôté, révéla 4 autres pains contenant les mêmes plaquettes. Au même endroit, un peu plus au fond, une sacoche en tissu contenant une liasse compacte de billets de banque fut découverte. Cette fois-ci, uniquement des grosses coupures. Fleur Sainte-Croix, Coste et son équipe étaient maintenant contemplatifs autour de la table du salon où avaient été empilés 18 pains. Bien que Johanna se doutât de la réponse, elle essaya tout de même. « C'est clairement une autre affaire de stup. Tu veux la shooter à Sylvan et Jevric ? Certainement pas, ils auront la cam, mais Rose, elle est à nous. » De son côté, Sam semblait perplexe et n'arrivait toujours pas à comprendre comment une telle quantité de cannabis n'avait pu réveiller son odorat, ni celui de personne. « Il y a au moins 12 kilos de shit frais, pas encore coupés. On devrait les sentir depuis le couloir » s'exclama-t-il. Le maître chien saisit un des sacs et lui expliqua. « Ce sont des SPB, des Smell Proof Bags, des sacs anti-odeurs. » Double fermeture à zip, plastique renforcé. Même l'eau ne pourrait pas passer. Aucune chance de les détecter, à moins d'avoir une truffe. Sainte-Croix se rapprocha de Ronan en faisant un pas de côté pour éviter le chien encore très excité. D'après vous, ça représente combien d'argent ? Si ceux-là sont des 250 grammes et ceux-là des 1 kilo, je dirais à vue de nez 200 000 euros à la revente. Plus la liasse de billets. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup trop, pensa Coste. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre de la chambre. Leur voiture banalisée, les deux véhicules aux portières siglées police, dont une semblait provoquer la cité, avec son gyrophare bleu tournant. S'y ajoutait le fourgon de la canine et le camion des sapeurs-pompiers en attente du passage de l'identité judiciaire pour pouvoir lever le corps. Venu pour un homicide, Victor n'avait pas prévu d'être particulièrement discret et maintenant il le regrettait. L'information de leur présence avait déjà dû circuler et quand elle vaut 200 000 euros, ce genre d'information va très vite. À la faveur des quelques réverbères laissés intacts, il remarqua 9 étages plus bas des groupes de silhouettes se former encore à bonne distance. « Ça va déraper », se dit-il. Il chercha Ronan du regard. Lui aussi s'était posté devant la fenêtre et en était arrivé à la même conclusion. Ils échangèrent à voix basse. « Ça va déraper, Victor. Ils nous laisseront jamais sortir d'ici. Pas avec le matos. Je sais, cet immeuble est devenu un cercueil. Je demande des renforts à la SIC. Commence à briefer la magistrate. » Suivant les ordres, Ronan invita la jeune femme à le suivre dans la chambre et à s'asseoir sur le lit. Il s'accroupit devant elle, mais, déjà inquiète, les genoux serrés et les mains posées dessus, elle ne lui laissa pas le temps de commencer. « Vous ne vous attendiez pas à en trouver autant, c'est ça ?»« Oui, madame, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Si on avait su, on aurait adapté les effectifs en conséquence. Mais on va s'en tirer, comme on s'en tire toujours, d'accord ?» Le capitaine est au fil avec la salle du commandement. Dans très peu de temps, on va voir arriver une compagnie d'intervention en renfort. Vous les connaissez, les GI, ce sont des colosses en armure qu'on voit dans les reportages. Il paraît qu'ils sont incassables. Tout va bien se passer et demain vous aurez une chouette histoire à raconter à vos amis. Dans le salon, Coste termina son appel, réunit tout le monde et essaya de les rassurer. « Je viens d'avoir le commandant Auclair. J'ai fait annuler l'identité judiciaire par sécurité. On attend 2 GI dans moins de 3 minutes pour notre évacuation. Sam, tu prends en photo tout l'appartement et la scène du crime. Qu'on garde au moins une idée de la disposition des choses. Ensuite, tu me trouves une valise pour y fourrer tous les pains. Johanna, quand il sera temps, tu t'occuperas de la protection jusqu'à la voiture. Ronan, tu ne lâches pas la magistrate d'une semelle. » « La canine, vous restez sous l'aile des collègues en tenue. »« Et Rose ?» demanda Sam. « On va pas la laisser là ?» Coste se tourna vers le corps allongé sur le sol. « Rose, je m'en occupe. » Alors qu'il prononçait ces mots, une ombre noire passa furtivement devant la fenêtre du salon. Une plaque d'égout de 60 kilos jetée du dernier étage de l'immeuble fendit les airs en silence et vint s'écraser sur l'un des véhicules de police. Celui avec le gyrophare tournant, qu'elle explosa avant de traverser le toit et de presque couper en deux le bas de la caisse. Le bruit de métal froissé s'entendit jusque dans l'appartement. À 100 mètres de là, toute sirène hurlante, les deux fourgons noirs de la compagnie d'intervention firent irruption dans la cité. L'un d'eux emprunta l'allée et le second passa directement sur ce qu'il restait de l'aire de jeu pour enfants. Le conducteur du premier fourgon opéra un virage au frein à main, le véhicule pila au bas de l'immeuble. L'autre s'arrêta quelques mètres devant. Les portes latérales s'ouvrirent. La première équipe de 5 hommes, casqués, boucliers à la main et protection exosquelette, pénétra dans le hall et se posta en attente. La seconde équipe forma un arc de cercle autour des autres véhicules et se prépara à l'assaut. Face à eux se tenait une masse informe de silhouettes encore dissimulées. Sifflements, insultes, jets de cailloux, et ce fut bientôt une boule de pétanque qui arriva en plein fouet sur l'aire des boucliers, suivie d'une vingtaine d'autres projectiles de toute taille. Deux policiers sortirent leur flashball, les trois autres des extincteurs lacrymogènes. « Ça commence !» souffla Coste.
Undulating back and forth, but it's too late. And there's no cure, no sedating. All this pain we're generating, this prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps, your little feet. And sell the food snake while I'm fleeing town, and I can't get around to being not surprised by memory speeding on the road on which we're bleeding low. Honey, this ain't love. I want you to hold me perpendicularly. It's raining cats and dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact that ain't so frightening how there hasn't been your pretty side in so much time. My teeth are widening from the blood we shed while biting love. Honey, this ain't love. I want you.
Vous l'avez compris, j'ai choisi Olivier Norek pour son atmosphère, un univers atmosphérique. Alors, quelques précisions. Tous ces polars se passent dans le département 93, c'est-à-dire la Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France. Avec le capitaine Victor Coste, né sous la plume donc de Olivier Norek, français. Alors, comme d'habitude, dans nos émissions, quelques mots sur l'auteur.
Ça se fait, oui.
Ceci dit, j'ai trouvé ça tout simplement sur Wikipédia.
Oui, c'est pas grave, on n'est pas obligé de le dire.
On n'est pas obligé de le dire. Olivier Norek, eh bien, ce n'est pas n'importe qui. Puisque d'abord, il a travaillé...
Il écrit des polars, déjà.
Il écrit des polars, oui, c'est vrai. Tout à fait. Et des bons polars. Il a d'abord été bénévole en tant que pharmacien dans l'association Pharmaciens sans frontières. Pendant 3 ans. À l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni. Saint-Laurent-du-Maroni, c'est en Guyane. Et puis ensuite, il a travaillé dans des camps de réfugiés, en ex-Yougoslavie. Et puis ensuite, parce qu'il y a toujours une suite avec lui, il entre dans la police. Étonnant, non? Et dans la police, il devient lieutenant à la SDPJ, c'est-à-dire section départementale de la police judiciaire du 93. Autrement dit, quand il place son héros, Victor Coste, dans le 93, il sait de quoi il parle.
C'est un environnement qu'il connaît.
Exactement. Une interminable rallonge serpentait le long de l'entrepôt pour alimenter les 2 halogènes braqués vers le corps inerte. Sam, la dernière recrue de Coste, trafiquait les spots pour ajuster leur hauteur. Un peu trop maigre et fragile d'apparence, il donnait l'impression d'être entré dans la police par erreur, ou par hasard. Juché sur 2 grandes jambes inutiles, il regardait partout. Partout, sauf vers le cadavre aux proportions démesurées. Éclairé comme une rockstar et criblé de balles. T'as une petite mine, Sam. T'as pas l'air dans ton assiette. Je t'emmerde, Ronan, je t'emmerde. Et j'ai la gerbe. Sérieux, Coste, tu sais que j'aime pas ça. Je peux pas aller voir s'il y a de la vidéosurveillance quelque part, ou bien me faire l'enquête de voisinage, chercher des cafés. Je m'en fous, n'importe quoi. Vidéosurveillance, ça me paraît bien. Fais jusqu'aux rues voisines. Ronan, tu prends ta moto et tu l'accompagnes. On va partir du principe habituel que le ou les auteurs ont essayé d'être futés et qu'ils n'ont pas buté leur type à côté de chez eux. Trouvez tous les accès possibles. On cherche une bagnole, un blague de cette taille, ça se porte pas sur le dos. On cherche une bagnole, une camionnette, un véhicule, quoi. Coste attrapa sa radio. Aubin, t'en es où ? L'immense bâtiment en fer rendait la réception désastreuse et une voix grésillante dégueula une réponse inaudible. Coste regarda sa radio et tenta de se rappeler un jour où elle avait fonctionné correctement. Il prit son portable. « Aubin, t'en es où ?»« Sur la route, avec le doc, de garde. On est à 3 minutes. Il termine sa nuit à côté de moi. » L'équipe de l'identité judiciaire avait réquisitionné les lieux. Les flashs crépitaient autour du cadavre, révélant par éclair la scène en couleurs vives. Prélèvements biologiques, placements sous scellés de tous les mégots de cigarettes, bouteilles et détritus divers que le sol d'un hangar désaffecté peut accueillir. La routine, quoi. Les effectifs de la scientifique, en combinaison stérile blanche, bouche et cheveux soigneusement masqués pour éviter toute contamination des échantillons par le propre ADN, assuraient un balai organisé, ignorant le géant au centre de leurs opérations et les raisons pour lesquelles il s'était fait buter un matin de janvier. L'un d'eux éteignit les 2 halogènes et contrôla les contours de la scène au climescope. Il rechercha des traces de sang ou de tout autre fluide biologique, projetant sur chaque centimètre carré la lumière bleutée. Il passa ensuite au révélateur Blue Star en brumisant le produit sur un étroit périmètre autour du cadavre. Sans succès. La pièce resta plongée dans le noir. Le responsable de la scientifique, un type à grosse barbe, affichant l'air d'un prof à l'ancienne et que ses propres collègues surnommaient « Don't touch », s'adressa à Coste. « Pas de réaction luminescente, pas de sang. Ton gars est pas mort ici. On l'a juste déposé. Maintenant, c'est bon pour nous. Vous pouvez mettre vos pattes partout. On a terminé. Alors que les techniciens refermaient leurs mallettes, Aubin gara sa voiture à côté de l'entrepôt et réveilla le médecin qui ronflait la bouche ouverte. « On est arrivé, doc !» Sans même ouvrir les yeux, celui-ci commença à râler. « Tout ça pour me taper un cadavre, vous faites vraiment chier !»« Tu parles aussi mal qu'un flic, doc !» Quand Coste aperçut Mathias Aubin, il pensa d'abord qu'il avait perdu le médecin en route, avant de le découvrir caché derrière lui. Aubin ferait de l'ombre à n'importe qui. Une armoire normande, haute et droite comme un immeuble, surmontée d'une gueule cassée et fatiguée, avait un air à la Lino Ventura, dès qu'il s'énerve. À leur première rencontre, il n'aurait jamais parié que cet homme deviendrait l'un des seuls à avoir sa confiance. 10 ans de 93, avec toutes les merdes que ça implique. Aubin salua Coste de sa voix éraillée. « Salut Victor !» Bonjour Mathias, bonjour Doc. Alors il est où votre bonhomme? C'est le seul type mort de la pièce. On vous a mis des halogènes tout autour pour pas que vous le ratiez. Le médecin s'accroupit devant le cadavre avant de réaliser que même assis, le géant le dépassait. Il est grand, dites. On s'en fout. C'est savoir s'il est mort qu'on veut. Le toubib reprit un ton professionnel. Eh bien, il l'est. Mort réelle et constante. Plusieurs traces d'impact de balle sur son pull. Les causes de la mort ne semblent donc pas naturelles. J'ai mis un obstacle médico-légal pour que vous puissiez aller le charcuter à l'autopsie. Pas question de mettre les doigts dessus. Il est trop tôt pour ça. Je retourne me coucher. Vous enverrez la réquisition judiciaire à mon service. Le médecin fit demi-tour, mais trouva Aubin en travers de sa route. « Tu vas quand même bien lui regarder le pouls, histoire d'être sûr, non ?»« Putain, il y a 3 gros trous sur un pull imbibé de sang, et ça fait plusieurs heures qu'il est immobile, ça vous suffit pas ?» Aubin ne bougea pas, convaincant. Le médecin enfila une paire de gants latex et posa 2 toits au niveau de l'aorte. « Rien, aucun battement. C'est bon, je peux y aller ? Ou vous voulez aussi que je vérifie s'il a tous ses vaccins ?» Aubin le raccompagna à l'extérieur alors que Coste composait le numéro de la permanence du tribunal pour briefer le magistrat d'astreinte. Aucun document sur lui, découvert ce matin à 3 heures par le vigile, abattu à l'arme de poing probablement. Le médecin nous a accordé un obstacle médico-légal, vous n'avez plus qu'à prescrire une autopsie. Merci, on vous tient au courant dès qu'il y a du neuf. Coste raccrocha en observant les pompes funèbres qui zippaient avec difficulté le corps immense dans un sac noir un peu trop court. Des Maccabées, Coste en avait tellement vu qu'il aurait pu se taper une crème glacée pendant n'importe quelle autopsie. C'est donc sans grande émotion qu'il regarda s'éloigner sa nouvelle enquête, emballée pour la morgue.
Je me réveille quand la lumière commente. J'étais comme mort à l'aube, à danser sur le même air comme un automate. On passe d'un jour à l'autre, avec nos sourires jaunes pisse. On jette nos rêves à l'eau, cherchant la bonne piste. À l'eau ici le zoo, l'enfer où pour pleurer les hommes s'isolent. S'enferme, on est des gosses apeurés devant la mort sans camisole. Je plaide la folie, je me sens comme un explosif sans amorce, faut lire. Entre les lignes, faut la mordre, la vie, pas l'effleurer, loin de la norme. On a grandi en se croyant éternel, on n'a plus la morve. Au nez, la rue est moins maternelle qu'avant, les gars morphent. Les soldats tombent, personne n'échappe à la règle, à la morgue. J'attends la prochaine étape, à l'arrêt, nos cœurs redémarrent quand un nom manque à l'appel. Et ça laisse des marques, on était poteaux avant le rap, les labels. Tous ghetto, superstar autoproclamé, la gueule dans les dos, dollar autoprogrammé. Même le veto, le monde appartient pas aux mecs comme nous. Un jour la mort met le veto, la nuit apporte rarement de bonnes news. C'est triste, le son chiale, le piano m'oppresse. Mec, le blues a son charme, t'es parti à l'âge du Christ ou presque. Le sort s'acharne et je me presse d'exister, rien de plus logique. Avant que le destin casse les branches de mon arbre généalogique. On dit que c'est les meilleurs qui partent et ceux qui restent souffrent. On s'aime mais surtout on ne dit pas, les cœurs restent sourds. Au jardin des ombres, j'ai perdu ta trace. J'ai dû me faire une raison, vivre avant de céder ma place. jardin des ombres, des ombres, des ombres. Passe ta bouteille que je lâche, une gorgée sur le bitume, le ciel crache. Jardin des ombres, où j'ai perdu ta trace, j'ai dû me faire une raison, vivre avant de céder ma place. Jardin des ombres, des ombres, des ombres. Passe ta bouteille que je lâche, une gorgée sur le bitume, le ciel crache. Le temps qu'on brûle reviendra pas comme celui qu'on perd dans ces guerres muettes. On sert d'appât, c'est partout la même merde, de la zac à la muette. Je donne une gorgée au béton à ta mémoire. Je me suis forgé au gris des tombes, parfois mon âme est noire. Sur tous les tons, je pis dans la baignoire et je parle à ce mec dans la classe. À se mettre sous les chicots, y'a rien, la vie est fade, la garce. Je rappe ce qui me torture au micro, j'ai dû laisser ma trace. Y'a pas de place pour l'imposture, 50 000 CD la passe. Pour tout ce qu'on n'a pas fait ici, tout ce qu'on n'a pas dit. Parfait, je suis loin de l'être, au paradis, garde-moi une place pour mes mots. J'ai plein de lettres, frère, c'est dead, y'a plus de couleurs dans la palette. Mec, mes mots classent le sang. Piano branché, direct live, on se passe de sample sur un billet mauve. J'écris ce message pour qu'il me survive. Avant d'être vieux et mort, faudra qu'on vive, faudra qu'on vire à droite, moins du pire. La vie a meilleur goût quand on vibre, on est des convives ici. Écoute, rien que des convicts, des convises. Le top, le sol nous rattrape, tu règles le solde, le sauve la trappe. Et c'est ton cercueil qu'on visse, le même qu'on visse. Combien de serpents à mon enterrement? Combien attendent qu'on glisse? Moi je suis réel entièrement. Le fils devient père et je comprends le mien un peu plus. Y'a pas de daron parfait, qui peut le plus, peut le moins. J'ai des souvenirs à graffer dans le crâne. À demain, je mets plus rien sans métronome. Je garde le tempo, encaisser la défaite. C'est être un homme, ça s'impose. Repose en paix, padré. On veille sur la daronne pendant que les vautours gardent un œil sur moi comme sur la charogne. J'ai des souvenirs dans un coin de la tête. Coffrer ma chambre forte. On se reverra peut-être un jour si je passe la porte. Jardin des ombres, j'ai perdu ta trace. J'ai dû me faire une raison, vivre avant de céder ma place. Jardin des ombres, des ombres, des ombres. Passe ta bouteille que je lâche, une gorgée sur le bitume, le ciel crache. Jardin des ombres, j'ai perdu ta trace. J'ai dû me faire une raison, vivre avant de céder ma place. Jardin des ombres, des ombres, des ombres. Passe la bouteille que je lâche, une gorgée sur le bitume, le ciel crache.
Ça vous plaît, Code 93? Alors, allons-y pour la scène de l'amourette. Le docteur Léa Marquand, médecin légiste de l'Institut médico-légal de Paris, restait une énigme pour Coste. Fille du directeur d'une clinique privée parisienne, elle préférait vivre avec les morts plutôt que de subir les jérémiades des vivants. Coste ne la connaissait qu'en blouse blanche, les cheveux au burn, tirés en arrière, les yeux vert pâle derrière une paire de lunettes fines et rectangulaires, le visage innocent et souriant, en totale contradiction avec sa capacité à scier un crâne en moins d'une minute et à prendre des intestins à pleine main. Il se demandait donc souvent à quoi elle pouvait ressembler avec les cheveux détachés et un peu moins de sang sur ses fringues. La particularité de leur relation voulait qu'ils ne se croisent qu'à la suite d'une mort suspecte et, à cette occasion, Coste en profitait pour vérifier discrètement l'absence d'une bague qui aurait pu apparaître à son doigt. Ce matin, il marchait côte à côte dans l'un des longs couloirs de l'IML. « Il a une histoire, ton client ?»« Oui. » L'histoire d'un type retrouvé mort ce matin dans un entrepôt avec 3 balles au niveau de la poitrine. Un règlement de compte? Pourquoi pas? Le reste, c'est à vous de me le raconter. La légiste glissa son badge de sécurité sur le verrou magnétique de la salle d'autopsie. Le corps du géant avait viré au gris sous la lumière froide d'un néon. Ses pieds dépassaient de la table d'opération. Léa Marquand remonta son masque chirurgical, puis, après quelques secondes de silence, prit une série de clichés. Bien, commençons par découper ses vêtements et voyons les dégâts des coupe-feu. Elle souleva une partie du pull gorgé de sang et le découpa du bas jusqu'au col. Sans la quitter des yeux, Coste sortit son baume du tigre et il s'appliqua sur la lèvre supérieure. Dans 10 minutes, l'atmosphère serait irrespirable. Elle décolla sans effort le vêtement de la peau. Plusieurs fois, elle passa la main sur la poitrine intacte du mort. Incrédule, aucun impact de balle, pas la moindre plaie. « Il guérit vite, votre type !» Coste s'approcha, constata, soupira longuement, regarda la légiste. Il était emmerdé. Alors il fit comme d'habitude, au plus simple. 3 trous sur le pull, pas de plaie correspondante. On lui aurait mis le pull après sa mort. Puis il poursuivit pour lui-même son raisonnement en silence. « Je déteste ça, » ronchonna Léa Marquant. « Vous dites, vous commencez à vous lancer dans une hypothèse et vous la terminez dans votre tête. » Pardon, je me disais que si notre inconnu n'était pas mort par balle, vous alliez devoir trouver une autre cause du décès. Et moi, j'allais devoir enquêter sur un pull. Elle acheva d'ôter le reste des vêtements et prit une nouvelle série de photos. Paisible, c'est la sensation qu'il donnait, les yeux fermés, entièrement dévêtus. Pourtant, la nuit n'avait pas dû être tant que ça. Paisible, entouré près de 100 fois avec de la ficelle jusqu'à sa base, son pénis donnant l'aspect d'un légume noir et flétri. La légiste s'y arrêta, se rapprocha et réajusta ses lunettes protectrices. « Victor, je crois qu'il lui manque des couilles. » Elle se reprit dans un registre plus approprié. « Incision chirurgicale, ablation des testicules après ligature. Il n'a pas dû aimer. Les blessures sont visiblement ante-mortem. C'est confirmé par l'utilisation de ce qui apparaît comme de la ficelle à rôti, à la base du pénis, à la manière d'un garrot. Ça ne confirme rien, ça précise. C'est-à-dire, Sherlock, que non seulement on voulait qu'il soit vivant pendant qu'on les lui coupe, mais aussi qu'il reste en vie après. Ça précise. » Un coin de sa lèvre remonta dans un sourire discret. Elle aimait l'esprit vif du flic. Elle continua à inspecter chaque centimètre carré, puis le retourna avec l'aide de Coste. La rigidité cadavérique est installée sur la totalité du corps, bien que encore légèrement souple. La mort ne remonte pas à plus de 6 heures. Décroissance mortelle cadavérique. Le corps est un petit peu froid. Je ne vois pas de plaie ni autre altération visible. Je vais chercher d'éventuelles ecchymoses sous-cutanées. » Elle fit rouler près d'elle la table des instruments et choisit un scalpel. Elle appuya sa main sur le mollet gauche et entailla profondément la peau et la chair sur toute leur longueur. Le muscle s'ouvrit largement comme une fleur rouge. Dans l'indifférence générale, le géant, le visage écrasé contre la table, ouvrit grand un œil. Je ne vois rien de particulier, pas de traces de coups. La légiste se pencha et attrapa fermement l'autre mollet pour l'inciser d'un même geste, rapide et précis. Dans une plainte aiguë et assourdissante, le mort se redressa sur ses coudes. Coste et la jeune femme se figèrent. Il tordit son cou vers l'arrière et regarda ses deux mollets ouverts, avant de tourner la tête vers l'homme et la femme qui restaient sidérés devant lui. Il tenta de se lever et ne réussit qu'à s'effondrer en renversant les tables chargées d'instruments et de bocaux dans un fracas de métal et de verre brisé. Tombé lourdement au sol, il s'empara du premier scalpel à portée de main et le brandit devant lui. Coste sortit son arme, se plaça devant la légiste et le pointa juste au niveau de l'épaule. Incapable de se mettre debout, l'homme recula sur le carrelage blanc et sang en poussant paisiblement sur ses mains, jusqu'à s'encastrer dans un coin de la pièce, le scalpel toujours dressé. Il tremblait, le regard vide, se posant au hasard. Coste se sentit ridicule de braquer un homme en état de choc et rengaina son arme. « Putain, il guérit vraiment vite, votre type, Coste !»
Artifice.
Oui, je sais, pour draguer la gonzelle, il n'y a plus glamour. Bon, vous l'avez compris, chez Olivier Lorec, ce qui me plaît le plus, c'est pas l'intrigue, c'est l'atmosphère, alliée à la qualité des dialogues. On dirait du Audiard. T'es pas d'accord, Dominique? C'est un petit peu ça.
Un peu.
C'est du lourd. Et il est toujours bien accompagné. Maintenant, dans le prochain extrait, je vous présente une partie de son équipe. Ronan sortit une cigarette de son paquet, l'alluma à l'aide de celle qu'il avait déjà à la bouche et l'attendit à Coste qui sortait des bureaux de l'inspection générale des services plus de 15 minutes après lui. Dans sa cellule, Ronan avait eu le temps de réfléchir. « Je sais pas qui t'a baisé, Coste, mais tu t'es chopé une belle MST. Je suis désolé, Ronan, tu devrais pas être mêlé à ça. » « Pas mêlé à ça, va te faire foutre, capitaine. Je suis ton second et même si ça te semblait avoir plus de sens pour toi quand c'était Mathias, c'est moi qui assure tes arrières maintenant. Je sais que tu nous mets à l'écart pour de bonnes raisons. Si je ne me trompe pas, c'est en grande partie pour nous épargner des emmerdes et d'une manière que je n'explique pas encore pour sauver le cul de Mathias. » « Mathias ? La petite de Franck Samois, Sam, comme moi, on l'a reconnue. » C'est celle du squat de la mairie des Lilas. Une affaire de Mathias. Je me fous d'enquêter à l'aveugle. Je te fais confiance. Jusque dans ces putains de cages à l'IGS. Je te fais confiance. Mais est-ce que tu sais seulement où tu vas ? La question n'était pas sans fondement. Coste avait cru pouvoir gérer les secrets de Mathias. Mais la mauvaise herbe avait poussé de manière exponentielle et recouvrait maintenant chaque parcelle de terrain. Ronan n'en avait pas terminé. « Tu sais ce que je pense? Je crois que cette affaire peut nous péter à la gueule à tout moment et tu veux t'assurer que l'équipe soit le moins éclaboussée possible. Genre sacrifice à la con !» Coste jeta sa cigarette et attrapa le paquet qui dépassait du blouson du motard de Ronan pour en sortir une nouvelle. Il tempéra. « De toute façon, on est en vacances forcées. Abassian m'a informé que le 36 reprenait tout, du premier au dernier meurtre. Donc tu peux me parler ?» Laisse-moi encore un peu de temps, le temps de comprendre comment relier tout ça. Une Mini Cooper noire impeccable ralentit à leur niveau, presque invisible, avec le soir tombant. Léa Marquand klaxonna un coup sec. Montez ! La petite voiture se gara sur les places réservées aux taxis en face des marches de l'Opéra Bastille. Un instant plus tard, Coste, Ronan et Léa retrouvaient Sam et De Ritter dans la salle privée d'un bar. Réunis à l'encontre des ordres reçus, ils donnaient l'impression d'une équipe de braqueurs en préparation d'un coup. Le gérant du bar, à l'air bourru, des bougnats authentiques, déposa 5 verres sur la table et une bouteille d'alcool maison sans indication de degré ou de provenance. En l'appelant par son prénom, il demanda à Sam s'il pouvait faire autre chose, puis quitta la salle en tirant le paravent qui désormais les isolait du reste de l'établissement. Léa Marquand s'était installée juste à côté de Coste et sortit d'un sac fourre-tout une liasse de papier écorné. Copie du rapport d'autopsie de Jordan Paulin, dit-elle à l'intention de Coste. Je me suis dit que vous seriez intéressé. Il se mit à feuilleter au hasard des pages. La légiste lui fit un résumé éclair. Ex-sanguination complète, tout le sang a été retrouvé préservé en plusieurs bocaux dans le frigo de son appartement. Si on aime la littérature, c'est l'œuvre d'un vampire. Pour la médecine légale, il s'est vidé suite à la section de son artère fémorale. Le soin porté à la mise en scène correspond parfaitement aux deux autres meurtres, si vous me permettez de jouer à la flic. De son côté, De Ritter bouillait d'impatience. « Apparemment, ça ne choque personne, mais vous foutiez quoi, enfermé à l'IGS ?» Coste n'aurait pas parié sur sa présence. Pour une période d'essai, il ne l'avait pas épargnée. Mais en prenant comme les autres le risque d'être là ce soir, elle revendiquait sa place dans l'équipe ainsi qu'un minimum d'explications. Les bœufs ont fait un rapprochement précipité entre le cambriolage du local cédé des stupes et notre visite à Jordan Paulin. C'est tout. D'ailleurs, regarde, on est dehors, non ? Prends-moi pour une conne. Interdiction de nous parler, ni même d'aller dans ton bureau. On doit se retrouver dans un SRAD pourri. Ça te semble clair, ça ? Coste hésitait. Il était touché par la présence de chacun, mais se sentait coupable rien qu'à l'idée de pouvoir les entraîner avec lui. Je vais prendre quelques jours de vacances. Sam, si tu peux me rendre un dernier service, j'ai besoin du numéro de Farrell, le journaliste qui nous a tuyautés, sur le corbeau de la cabine téléphonique. De Ritter souffla, blasé. Elles ont l'air bien, tes vacances. Il laissa passer la pique. D'ici là, pas de contact, pas d'appel téléphonique, on reste dans les clous. À l'unisson, ils se saisirent tous les cinq de leurs verres et le vidèrent d'un trait dans une grimace particulière à chacun. Sous la table, sans chercher à être discrète, Léa prit la main de Coste et la serra doucement.
Thank you.
bien, eh bien, je crois que je vous en ai assez lu aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné l'eau à la bouche, j'espère. Donc je termine en vous disant que je vous ai lu du Olivier Norek, qui a écrit une trilogie de trois polars passionnants. Donc je vous ai lu aujourd'hui principalement Code 93, des extraits de Code 93, c'est le premier de la trilogie, et je vous ai lu également un extrait du second qui s'appelle Territoire. Alors Code 93 s'est paru en 2013, Territoire paru en 2014, et le troisième s'appelle Surtension, paru en 2016. Voilà, je vous les conseille, vous pouvez lire ça. Alors donc, c'est pas la même histoire, hein. À chaque fois c'est une enquête, mais c'est toujours avec la même équipe, et c'est écrit toujours de façon percutante.
Alors effectivement, il y a une atmosphère dans ces livres-là. Là, qui,
t'as aimé Dominique ?
Je ne connaissais pas, j'ai découvert, et franchement ça donne envie.
J'espère que je vous ai donné envie.
Très bien, eh bien, merci Hervé. Chers auditeurs et auditrices, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une autre lecture. Et Hervé, bien sûr, tu vas nous dire le titre de la suivante.
Je n'en ai aucune idée. D'autant que, normalement, le prochain mois, c'est Catherine qui vous lira des extraits.
Normalement. Très bien.
Après, hein, on fait ce qu'on peut tous.
Allez, bonsoir à tous.
Au revoir.
Et au mois prochain.